BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est parti pour notre rendez-vous quotidien avec votre argent, BFM Patrimoine, qui vous accompagne 2 heures durant et qui vous permet notamment de suivre les évolutions de marché grâce à Antoine Larrigaudry qui ouvre l'émission chaque jour pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Bonjour Antoine. Un rebond semble se dessiner derrière vous. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que c'est le cas ?
Ah bah pour l'instant non, effectivement on a un beau rebond, il s'est même intensifié depuis l'ouverture, plus 1,3% et remonte bien au-delà des 5800 points, 5844 points. Alors il se dessinait en avant-marché sur du 0,5-0,6%, on a ouvert en hausse d'à peu près 0,7%, puis là on passe la vitesse supérieure, bon, sans doute déjà parce qu'on avait besoin de vraiment remonter la pente, on perdait 5% depuis le début de la semaine passée, avec de fortes consolidations, on a pu observer 3 jours de baisse consécutive. Donc là, il était temps qu'on reprenne un petit peu de hauteur après avoir signé de nouveaux plus bas annuels, donc de nouveaux supports sur lesquels on pouvait éventuellement rebondir. On reconstruit un petit peu des stratégies. Bon, malgré tout, ça reste à court terme une tendance extrêmement, extrêmement compliquée. Rebond du chat mort, ça, on verra éventuellement sur les séances suivantes, hein, on pourra le dire qu'après. Mais au moins un rebond technique pour racheter certaines positions qui étaient peut-être très, voire trop vendeuses. Du côté du marché obligataire qui stigmatise et qui cristallise toutes les inquiétudes du moment, on reste sur de très forts points de tension, mais ils ont tendance à s'apaiser de quelques points de base depuis quelques heures. On est à 2,71 pour la dette française 10 ans, à 2,11 pour la dette allemande 10 ans, 3,84 pour la dette américaine et puis 4,59 pour la dette italienne. Du côté des devises, on reste toujours à 0,96, bloqué sur l'euro-dollar, mais enfin pour l'instant c'est pas pire. Et puis on a la livre sterling qui a bien rebondi, on était passé sous les 105, on avait signé des plus bas historiques, hein, de toute manière, hier en séance. Là, on remonte à 108. 1,08 pour 1 dollar. Donc ça, c'est un facteur intéressant. À noter l'autre facteur qui perdure, hein, depuis hier, c'est la très forte correction des prix du brut, hein, le Brent de mer du Nord, qui stagne là du côté des 84 dollars. On ne fait plus rien. Alors, les valeurs qui sont cibles de ces mouvements de rachat, bah, des valeurs à tendance plutôt techno. On a Worldline qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 4,7%, 44,14. On a ST Micro, plus 3,15 à 35,18. On a le secteur du luxe aussi. Donc, valeurs de croissance, hein, de manière générale. Hermès gagne 2,6% à 1,205 €. LVMH, plus 2,5 à 621,90 €. Mais aussi des valeurs cycliques, hein, Renault plus de 98 à 28,88 et ArcelorMittal plus de 51 à 21,48 €. Donc c'est un peu tout qui en profite, mais quand même, les valeurs de croissance se distinguent malgré un contexte obligataire toujours extrêmement tendu, et on sait que les taux qui grimpent, c'est pas bon pour les valeurs de croissance. Enfin, on était arrivé sans doute sur des positions trop vendeuses pour ne pas être rachetées à un moment donné, et c'est ce qui se passe en ce moment. Parmi les valeurs à la baisse, alors à noter Kering, hein, qui fait un petit peu exception. Parmi les valeurs de croissance, le titre perd 0,43% à 471 €. Puis des valeurs alors très défensives qui sont vendues. Thales, moins 65 à 110,35 €. Orange, moins 0,28 à 9,55 €. Et puis, on a M6 qui recule de 4,6% à 13,19 €. On prend quelques petits profits après la forte poussée spéculative, hein, autour du groupe audiovisuel. Le CAC 40, plus 1,3% à 5,844 €. Et l'euro, 0,9638 face au dollar. À noter aussi le très beau redressement des cryptos qui ont profité de la faiblesse des monnaies traditionnelles. On a le Bitcoin qui est à 20 209 $ et l'Ether à 1 383 $. Cédric.
Antoine Larrigaudry, que l'on retrouve chaque matin. Merci Antoine, bonne journée sur le marché. Nous, c'est l'heure de l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco.
Et à la une, ça y est, le gouvernement a choisi la nouvelle direction d'EDF. Déclaration de Bruno Le Maire ce matin sur France Inter. Le ministre de l'économie précise que l'annonce était imminente et laisse entendre que la direction sera bicéphale. Selon nos informations, la direction générale devrait revenir à Luc Rémont de chez Schneider et la présidence à Claude Imoven de chez Orano, selon les Échos. C'est une réunion très attendue chez les salariés de Stellantis. Direction et syndicats ont rendez-vous ce matin pour discuter pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante. Les syndicats du groupe ont de grosses attentes. La semaine dernière, Renault a proposé une prime de 1 000 euros pour la majorité de ses salariés. De leur côté, les salariés de Total Energy sont en grève aujourd'hui et pendant au moins 3 jours. Ils réclament des hausses de salaire et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service. Free se lance dans les services financiers. Le groupe présente ce matin Stancer, une fintech qui vise une clientèle professionnelle. Elle sera spécialisée dans les paiements. Jusqu'à présent, elle gérait les infrastructures de paiement du groupe Iliad et réalisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, qui va s'emparer d'M6 après avoir reçu les offres la semaine dernière? Bertelsmann va passer au crible les propositions des derniers candidats au rachat. Parmi eux, l'alliance constituée de Stéphane Courbit, le patron de Baniget, Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, et l'homme d'affaires Marc Ladré de La Charrière. Autre offre, celle de Xavier Niel et de la famille Berlusconi. Enfin, troisième candidat, Daniel Kretinsky. La décision devrait être prise en fin de semaine. Et puis, dans le reste de l'actualité, taxer les riches et les super profits des entreprises. C'est ce que suggère de faire le chef économiste de la BCE pour faire face à l'inflation. Objectif, financer les aides aux plus démunis, tout en évitant de creuser les déficits publics. C'est ce que Philippe Lane a déclaré ce matin à un quotidien autrichien, Cédric.
Stéphanie Collot, on vous retrouve tout à l'heure, Stéphanie, pour suivre cette information économique. Et nous, tout de suite, on s'intéresse à vos placements.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
C'est Eric Lewin que l'on retrouve à la Bourse au quotidien. Bonjour Eric.
Bonjour cher Cédric.
Et vous nous proposez ce matin d'évoquer un titre assez particulier. Il s'agit d'Esker, je dis assez particulier, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est quand on regarde la performance sur les derniers mois, ça donne pas très envie, moins 66,86% depuis le début de l'année. Vous nous emmenez à la cave ?
Non, mais écoutez, quand vous regardez quand même sur 10 ans, j'étais sûr de votre question, quand vous regardez sur 10 ans, le titre gagne plus de 1100%. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que l'année dernière, le cours avait fait un plus haut historique à 367 euros. C'était complètement dingue. C'était, comme beaucoup de valeurs tech à l'époque, très cher. Et puis le titre a bien baissé. Alors un mot peut-être d'Esker, c'est un logiciel de diffusion électronique de support papier, logiciel de traitement de fax, dont les fondamentaux sont quand même très bons. Je rappelle quelques chiffres. Au premier semestre, plus 19% pour le chiffre d'affaires, 76 millions d'euros avec le SaaS qui représente maintenant 80% du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle est à 17,1% parce que le résultat opérationnel a progressé de 42% à 13 millions d'euros. On a une situation financière extrêmement saine avec une trésorerie nette de 39,9 millions d'euros. Et puis il faut savoir que il y a 40% du chiffre d'affaires d'Esker qui est réalisé en dollars, ce qui veut dire que chaque fois que le dollar gagne 10%, le groupe gagne un point de marge. Donc depuis le début de l'année, 15% à peu près de haut sur le dollar versus euro. Et donc 1,5% de marge en plus. Ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est que je disais les fondamentaux sont bons, les guidance, c'est-à-dire les prévisions sont plutôt bonnes, plus 12 à plus 14% sur chiffre d'affaires, une rentabilité opérationnelle qui devrait être dans le haut de la fourchette à 15% cette année, et puis un flottant de 78% parce que le fondateur qui a créé la société en 1985 n'a plus que 6%. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, c'est vrai que parfois on ne ramasse pas, comme on dit, un couteau qui tombe, mais on est quand même sur un super dossier, et moi je considère qu'entre 115 et 120 euros, ça peut être un excellent cours d'achat, ouais, mais... dans la mesure où le titre qui se payait sur des PE de 45 est revenu sur un PR de 22, ce qui n'est pas très cher par rapport à sa moyenne historique, et je pense qu'autour de 115-120 euros, on peut jouer, un, la revalorisation de la valeur, si on pense que les marchés comme moi peuvent remonter comme on le voit ce matin, et puis il y a quand même un phénomène d'OPA, je vous signale quand même que même si les marchés baissent, il y a eu 2 OPA dernièrement à la Bourse de Paris, une sur Teradiag de la part de Biosynex et une sur Atari de la part de la direction avec des primes entre 40 et 50%. Donc même si on en parle peu, les opérations financières continuent, et sur Esker, il peut tout à fait y avoir un deal à un moment ou à un autre, parce que je le répète, société créée en 1985 avec un fondateur qui n'a plus que 6%. Donc je pense qu'on peut aller raisonnablement aller voir les 155 à 160 euros. On va pas remonter bien évidemment sur les 367 euros parce qu'on a changé de paradigme, ouais. Mais on peut gagner 25 à 30% sur ce dossier.
Bon, malgré tout, ce titre, il a fait partie longtemps, ces derniers mois, de la sélection BFM Patrimoine, et donc on l'a déjà beaucoup regardé. On se rappelle qu'ils avaient promis une marge à deux chiffres et qu'ils avaient à peine accroché les 10%. Et ils ont eu des résultats juste conformes aux attentes au mois de juillet. Enfin, je suis désolé d'insister, Eric, mais c'est un peu contrariant ou on se base juste sur du spéculatif ?
Bah écoutez, du spéculatif, et puis bon, les marges, quand vous regardez sur l'ensemble de l'année, ils avaient prévu de faire une marge entre 12 et 15%. Dans le dernier communiqué du 14 septembre, ils avaient dit non, on sera dans la fourchette haute entre 13 et 15%. C'est vrai qu'il y avait une déception, comme vous en parliez en juillet, mais là, je pense que tout est rentré dans l'ordre et on va avoir un beau chemin de croissance sur cette valeur. Bien évidemment, c'est spéculatif, comme l'ensemble des small et mid. Mais si vous regardez le marché des small et mid Cédric, vous voyez que depuis le début de l'année, on perd 26%. Donc à la limite, vous avez beaucoup de valeurs qui perdent entre 30 et 60%. Si on les achète pas maintenant, on les achètera jamais. Et c'est pas quand le CAC 40 d'ici 6 mois sera 10% plus haut qu'on pourra les acheter. Donc ça me paraît contrariant, certes, mais il y a un bon momentum sur cette valeur.
120,40 € ce matin, ça grignote 0,33%. Et vous visez donc 160 € sur Esker que vous recommandez à l'achat. Eric Lewin, depuis la bourse au quotidien, le CAC 40, lui, poursuit son rebond. On est sur une hausse d'1,2% au-delà des 5800 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Irina Topasseri est en ligne avec nous depuis AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Avec une grille de lecture très européenne ce matin, on va parler Angleterre, on va parler Italie. D'abord, évoquons ce matin le cas anglais. On a un peu l'impression que rien ne va plus.
Bah, en fait, depuis l'annonce de ce qui devait être un mini-budget, qui finalement n'est que probablement les baisses d'impôts les plus historiques depuis 1972, assujetti aussi d'un soutien aux ménages et aux entreprises face à la crise énergétique. Somme toute, on compte 4 points de pourcentage de PIB par an pour les deux prochaines années, à travers des mesures ni temporaires ni ciblées. Donc paradoxalement, j'ai envie de dire, un gouvernement pro-croissance arrive à tendre les conditions financières plus vite et plus fort que la pauvre Banque d'Angleterre qui remonte ses taux depuis bien des mois. Donc en fait, j'ai l'impression que tous ces arguments de ce package, que la déréglementation, les mesures d'offres ou la baisse d'impôts soutiendront la croissance britannique et somme toute la croissance potentielle de l'économie britannique à terme, laisse assez dubitatif le marché. Et peut-être pas à tort, parce que quand on pense déréglementation, on le sait, l'économie anglaise est déjà une des plus déréglementées déjà dans le monde. Les mesures d'offres, là aussi, le problème, c'est qu'elles sont pas, elles semblent pas contenir, si vous voulez, des réformes structurelles qui potentiellement pourraient justement monter le potentiel de croissance de l'économie anglaise. Et puis, quand on regarde les impôts sur les sociétés, déjà l'Angleterre a les impôts les plus bas parmi les membres de l'OCDE, par exemple, avec un taux d'investissement qui reste bien en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc voilà. Donc en gros, on aura une remontée de l'inflation et une Banque d'Angleterre forcée à répondre, si vous voulez, de manière plus agressive, et qui probablement enlèvera tous les bénéfices, si vous voulez, de la croissance, parce que nous savons tous que l'économie anglaise, le pouvoir d'achat des ménages est très sensible au taux d'intérêt, notamment à travers ces prêts immobiliers, vous savez, qui sont à taux fixe que sur les 2-5 premières années du prêt. Donc, on a quelque chose, un combo assez désagréable où le pound s'approche vertigineusement vers la parité versus le dollar et les taux longs qui montent. Et ce combo un peu étrange, parce que normalement, quand les taux montent, la devise marche, c'est qu'en fait, on a un problème sur la confiance, sur la croissance, et c'est symptomatique en fait d'une crise de confiance. Donc voilà, nous allons avoir des mouvements plus agressifs poussés, si vous voulez, par ce budget pour la Banque d'Angleterre à venir.
Voilà donc cette Banque d'Angleterre dont un de ses anciens gouverneurs dit il faut aller vite et fort. On verra si ce qui sort de tout ça lors de prochaines réunions. Tant qu'on est à l'étranger, je le disais, coup d'œil de l'autre côté des Alpes. Y a-t-il, selon vous, Irina, un problème italien ?
Alors, le problème italien, enfin, il est bien connu, si vous voulez, les problèmes structurels de l'économie italienne avec une croissance potentielle très faible et un endettement très fort. Ça devient, en fait, mine de rien, même si elle ne le souhaite pas, un problème pour la BCE. Hein. Donc, on a parlé effectivement de la Banque d'Angleterre qui va être plus agressive. On a vu la Réserve fédérale la semaine dernière, très agressive aussi. Et puis, une BCE, si vous voulez, qui, elle aussi, on l'entend d'ailleurs, plus agressive. Hein, on l'a vu, circonspecte, sur le fait qu'une récession dans la zone euro. Ils n'ont pas du tout un scénario de récession dans la zone euro pour l'instant. Et elle-même, elle se dit circonspecte qu'une récession pourrait assagir l'inflation, puisque effectivement on assiste à un choc d'offres. Et en plus, elle rajoute en disant qu'elle est attentive aux budgets, hein, différents budgets dans différents États hein, qui commencent à se profiler. On a vu la France, justement, et leurs effets sur l'inflation. Donc effectivement, on a aussi une BCE qui est plus agressive. On voit d'ailleurs que les anticipations de marché font une sorte d'émulation sur la réserve fédérale, probablement liée à la faiblesse de l'euro. Mais effectivement, cette remontée des taux longs qui est vertigineuse, effectivement, l'Allemagne est au-dessus de 10, mais l'Italie, justement, en revenant, où les taux longs arrivent à 4,5%, ça, c'est problématique. Et au-delà du sujet des spreads par rapport à l'Allemagne, etc., ce qui est important à réfléchir, à quoi il faut songer, c'est que le niveau même des taux devient très problématique pour l'Allemagne. Et effectivement, ce nouveau gouvernement qui va être en formation ces prochains jours, probablement sous la gestion de Giorgia Meloni, hein, qui a emporté les élections, va avoir effectivement une marge de manœuvre budgétaire très limitée, ne serait-ce que par le niveau des taux longs. Je pense que le sujet va être plus intéressant du côté de la BCE, encore une fois, puisque nous avons pu entendre que le sujet de la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne serait mis sur la table dès le mois d'octobre. Ça nous paraît bien trop tôt, car effectivement, les conditions financières se tendent très rapidement dans la zone euro. En Italie, on l'a vu, et ça va être son sujet quand même à gérer. Ce qui est d'ailleurs visible partout dans la zone euro sur les enquêtes de conditions des prêts bancaires dans la zone euro. Donc effectivement, l'Italie va probablement, enfin la partie fiscale va être probablement limitée par l'envolée des taux longs. Donc je pense que là, on va calmer les ardeurs du gouvernement italien mécaniquement. Mais enfin bon, la BCE va devoir faire très attention avant de s'attaquer à la réduction de son bilan à venir ces prochains trimestres.
Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri Aksayem qui nous accompagnait ce matin, comme chaque mardi. Merci d'être au rendez-vous Irina. Le marché qui progresse d'1,12%, 5833 points.
Votre rendez-vous avec Otari. Solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine. La vie immo.
Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
Aujourd'hui, logement social à la une, coup d'envoi à Lyon du 82e congrès HLM, rendez-vous annuel des bailleurs sociaux. Et cette année, leurs préoccupations majeures portent sur la rénovation énergétique.
Et on les comprend parce que comme les propriétaires bailleurs particuliers, privés, eux aussi, ils ont un sacré mur, 1,2 million de logements. Voilà, 1,2 million de logements à rénover dans le parc social d'ici à 2034. Clairement, l'équation, elle n'est pas tenable en l'état. Alors pourquoi ? Parce que les proportions et le chantier, j'ai envie de dire, est considérable. En vrai, pour tenir les objectifs du gouvernement, il faudrait qu'il puisse rénover 150 000 logements par an pour un coût de 12 milliards d'euros chaque année. Donc je crois que les proportions sont énormes et surtout, aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. En fait, l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, a tiré la sonnette d'alarme en disant voilà, nous, certes, on a des prêts bonifiés à la Caisse des dépôts, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte inflationniste, nos intérêts, ils coûtent de plus en plus cher. Et puis, notre endettement, lui, il est de plus en plus lourd. Il faut savoir qu'ils ont une dette, les bailleurs sociaux, d'environ 120 milliards d'euros. Alors après, vous allez dire oui, mais ils ont des fonds propres. Ouais, enfin, on l'a beaucoup dit à l'antenne, des fonds propres qui ont été largement amputés par la fameuse RLS, réduction du loyer de solidarité. Donc c'est la baisse imposée des loyers qu'ils perçoivent depuis 4-5 ans maintenant. Donc en gros, sur les 12 milliards d'euros qu'ils devraient consacrer à la rénovation de leur parc, ils estiment à l'Union sociale pour l'habitat qu'ils peuvent apporter de leur poche 2 milliards d'euros, qu'ils peuvent en emprunter 6 milliards auprès de la Caisse des dépôts, mais il reste encore 4 milliards à trouver, et donc ils en appellent au pouvoir public pour avoir des subventions directes ou indirectes, faute de quoi ils n'y arriveront pas. Et puis ils rappellent qu'en plus de ça, derrière, bah, y a aussi leur capacité, pas seulement à rénover, mais à construire des nouveaux logements, et c'est pas comme si on n'en avait pas besoin.
Pourquoi la CDC ne suffit plus aux bailleurs sociaux?
Alors en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire que, vu leurs prêts bonifiés, ça pourrait suffire, parce que d'habitude, ils font des emprunts extrêmement élevés sur des durées extrêmement longues. Mais là, vous allez comprendre, c'est plus compliqué que ça ne l'était. En fait, il faut savoir que les intérêts payés par les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des dépôts, ils sont indexés au niveau de rémunération du livret A. Or, vous le savez, le livret A, qui a été pendant des années proche de zéro, est passé à 2% en août. Et ça, pour les bailleurs sociaux, ça représente un surcoût de 2 milliards d'euros par an, en fait. En réalité, c'est ça, vu le poids de leur dette, je vous disais 120 milliards, 2% de taux de rémunération du livret A, ça fait 2 milliards de plus pour les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, il y a un autre sujet aussi, c'est que certes, effectivement, quand ils achètent pour, quand ils font des prêts pour construire, ils ont des durées extrêmement longues, parfois 50 ans, voire plus. Mais là, pour de la rénovation, les durées d'emprunt sont beaucoup plus courtes. Elles sont de l'ordre d'une quinzaine d'années, me disait-on, sur la réhabilitation auprès des bailleurs sociaux. Donc voilà la complexité. En réalité, pour vous dire grossièrement la chose, les bailleurs sociaux sont à peu de choses près dans le même état que les bailleurs privés. Et la difficulté, elle est là. Ils n'ont pas suffisamment d'apport et ils en appellent à l'État.
Marie Cœur de Roi.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, ce sont deux traders qui, derrière leurs écrans, vous livrent leur vision stratégique, technique, graphique de la séance en cours. Et comme chaque mardi, Romain Daubry nous attend au sein de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Et comme chaque jour, Jean-Louis Cussac est présent depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci, messieurs, d'être au rendez-vous. Romain, comment vous positionnez-vous sur ce rebond du marché parisien?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien, de façon un peu prudente, hein, dans un marché qui reste à la main des vendeurs, le schéma de vente s'est mis en place. On l'avait évoqué la semaine dernière, un risque baissier complémentaire de 5 à 10%, on a déjà fait 5%. Maintenant qu'il y a un rebond après 10 séances sur 10 séances, il y a eu 9 séances de baisse, donc qu'on enregistre un rebond aujourd'hui, c'est pas absurde. Maintenant, on a rompu sur la plupart des grands indices des niveaux d'alerte à mon sens, et même si l'accélération ne se met pas en place de façon marquée parce que les opérateurs sont en retrait, qu'il y a beaucoup de spéculation à la manœuvre et pas de main forte, parce que les portefeuilles sont couverts, ça ne veut pas dire que le schéma d'un rebond soit un signe de fort, c'est plus probablement une petite prise de bénéfice. Et puis des points d'entrée sur quelques valeurs, j'imagine, pour des opérateurs de moyen long terme. Mais tout ça se fait dans des mouvements assez faibles et avec toujours un niveau de pessimisme qui est assez important, qui limite cette accélération, mais qui ne l'empêche pas. Donc, si on regarde la séquence depuis l'échéance des marchés dérivés, on a baissé d'environ 5% en moyenne sur la plupart des grands indices, CAC, Eurostoxx, ou indices américains. La pression baissière, elle a augmenté de entre 3 et 4% sur les futurs sur ces indices-là. Ça veut dire que c'est une pression baissière qui est faible. Elle est plus faible nettement que ce qu'on avait connu en avril-mai, et elle est plus faible légèrement que ce qu'on avait connu au mois d'août dernier. Ça devient difficile de vendre sur ces niveaux-là. Le risque de rebond, ne serait-ce que technique, comme on vient de le constater, est important. Alors, en fait, le fait de passer sous 5970, 6040 était un signe d'accélération, de risque d'accélération baissière. 5832, on est en train de s'articuler autour, c'est vraiment le pivot intraday. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, on a des chances d'aller chercher 5914, 5920. Si on repasse sous 5820, on risque d'accélérer à nouveau et de retourner chercher la borne basse et les points bas qu'on a connus hier, situés au-delà de 5740. La séquence en rompant la zone 5970-6040 nous donne une cible un peu plus basse, mais elle ne sera peut-être pas d'un coup, située entre 5390 et 5506, qui est la cible probable du mouvement qu'on a mis en place et qu'on a déclenché, sachant qu'encore une fois, les vendeurs conservent la main dans cette séquence et qu'il n'y a pas non plus de panique, mais un mouvement qui se met en place et qui se fait régulièrement et doucement. Si en revanche, on passe 5970-6040, le mouvement baissier sera invalidé et ce serait déjà un retour en zone de neutralité, ne serait-ce que ça, ce serait pas mal dans l'immédiat. Mais pour l'instant, on est plutôt passé du mauvais côté du marché.
Voilà donc la vision proposée par Romain Dobré depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre ligne de conduite sur ce rebond?
La vente, Cédric, comme tous les jours, hein, tous les matins notamment, quand je vous parle, je vous dis, je cherche un point de vente sur rebond. Ce matin, on avait proposé 5827 et puis 5853. Donc les niveaux ont été atteints et derrière, sur la première vente, ça a bien fonctionné, on est revenu en arrière. Bon, là aussi, à l'instant, depuis une demi-heure, là, ça vient de rebaisser. Tout ça, on voit, ne tient pas à grand-chose. Et comme l'a dit Romain, on n'est pas à l'abri de rebonds techniques, de rachats de shorts, de... Je sais pas à quoi, d'ailleurs, on pourrait se raccrocher à ce moment-là. C'est difficile parce que ça tient, je vous dis, à rien. Donc, un petit espoir de nouvelles sur les taux, peut-être, des choses comme ça. Mais, en tout cas, là, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de densité d'échange. On a 450 millions. C'est faible. On a une volatilité implicite à 25. C'est élevé. On a globalement pas de changement de contexte, donc on peut très bien reperdre 1 ou 2% facilement. On a déjà fait 1,2 entre les extrêmes ce matin, c'est beaucoup. Vous voyez, on peut toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui agite ce marché, etc. La réponse est la spéculation. En grande partie, c'est la spéculation, parce qu'on observe notamment sur le CAC 40 beaucoup de régularité. Donc l'arbitrage est très prépondérant, trading algorithmique prépondérant. Ces écarts, si vous voulez, comme le rebond d'hier matin, qui était extraordinaire, c'est pas suite à des intérêts acheteurs significatifs, c'est vraiment à cause de vendeurs aussi qui sont extrêmement prudents. Tout le monde est très prudent et tout le monde est très méfiant, comme en témoigne la volatilité implicite. Donc voilà, tant qu'on n'est pas, si vous voulez, repassé au-dessus de 6000, il n'y a même pas de question à se poser. Moi, j'ai fixé un niveau 6160 pour l'instant, mais on va abaisser peut-être ce niveau quand même le plus rapidement possible pour neutraliser les indications baissières actuelles, pour jouer un biais neutre peut-être. Mais pour l'instant, je cherche toujours à vendre sur des rebonds d'une manière systématique, comme sur l'euro-dollar. Je cherche à vendre sur des rebonds. Hier, je vous disais, sous 0,97, ça a fonctionné. Ce matin, je recommence. Vous voyez, c'est vraiment la répétition de ce genre de stratégie extrêmement précise, puisqu'on sait exactement où est-ce qu'on se retourne, les objectifs, les écarts-types qu'on va chercher, etc. Et tout cela... Alors on gagne pas énormément parce que ça se fait dans des volumes faibles. Il faut y aller doucement, parce que c'est vrai, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle, d'un truc qui fait que le marché il bouge de 200 points. On se demande pourquoi et comment. Donc il faut rester extrêmement prudent. Il n'y a pas de densité, il n'y a pas de colonne vertébrale à ce marché. Vous voyez, quand on vend, on se dit ouais, mais bon. On hésite, c'est normal, c'est humain d'hésiter. Les algos, eux, n'hésitent pas, c'est beaucoup plus violent. Mais l'humain, lui, il hésite et cela, c'est tout à fait normal.
Deux visions de marché, graphiques, techniques, ce sont nos traders du jour. Romain Dobry, donc, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h30. Merci, Romain, de suivre cette séance aujourd'hui depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac qui nous accompagne au quotidien depuis Perceval Finance Conseil. Le marché parisien, lui, est donc en rebond, même s'il limite peut-être un petit peu sa marche en avant. Plus 0,7, 5811 points.
BFM Business. BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
La France est à l'euro près, c'est ce qu'a dit hier Bruno Le Maire en présentant le budget 2023. Qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, en théorie, quand j'entends la France est à l'euro près, ça veut dire que la maîtrise de ses dépenses publiques, elle garde la main sur ses finances publiques et puis elle met fin au quoi qu'il en coûte. Et elle est à ce moment-là, effectivement, à l'euro près.
Et c'est le cas?
Pour moi, c'est exactement l'inverse. Mais d'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas avoir de la rigueur budgétaire souffler le froid et avoir de la protection du pouvoir d'achat souffler le chaud. Enfin, ça veut dire courir de lièvre à la fois et ça ne marche pas. Quand vous prenez le budget 2023, il n'y a quasiment que des gagnants. Les perdants sont les automobilistes. Et encore, on apprend qu'il y a 1,8 milliard qui ont été mis de côté s'il fallait faire une nouvelle ristourne sur les carburants, et puis il devrait...
Il serait plus ciblé, plus... Enfin, et on repartira sur vos chroniques précédentes comment jumeler la déclaration fiscale et la carte grise. Quoi.
Exactement. Et il devrait profiter d'une moindre hausse des péages en début février, puisqu'il y a une négociation qui est en cours. Après, dans les perdants, vous avez les fumeurs avec le paquet à 11 euros, vous avez les propriétaires avec la taxe foncière, Et accessoirement, les labos pharmaceutiques, là, il y a un bras de fer pour savoir s'ils vont réussir à les faire contribuer, on va dire, à hauteur d'un milliard à milliard un dans le projet de financement de la sécurité sociale. Mais après, voilà, quand on prend les chiffres clés, 270 milliards d'euros d'emprunt l'année prochaine pour financer la dette nouvelle et la dette ancienne. C'est du jamais vu, un montant pareil. On a 11 000 fonctionnaires de plus. Et on a 155 milliards d'euros de déficit, 500 milliards de dépenses, 345 de recettes. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est à l'euro près, c'est quelque chose qui est à 155 milliards d'euros près. C'est comme ça que je vois les choses. Donc peut-être
que ça dépend de la taille de la pièce, quoi.
Voilà, mon interprétation est peut-être complètement erronée. Il y a quand même deux éléments de raison budgétaire qui sont pas vraiment d'ailleurs des éléments de loi de finances, mais c'est la réforme des retraites si elle voit le jour, et dans une moindre mesure la réforme de l'assurance chômage.
Donc il est faux de parler, comme le fait par exemple Gabriel Attal, de la fin du quoi qu'il en coûte.
Je trouve ça erroné, faux. Bon. Mais effectivement, il nous dit d'ailleurs, il a trois objectifs, Gabriel Attal. Le premier, c'est protéger le pouvoir d'achat. Ping ! Petit V vert, c'est bon. Là, le pouvoir d'achat est amplement protégé l'année prochaine. Il a un deuxième objectif, c'est financer l'action publique. Ping ! Petit V vert aussi, puisqu'on le fait à grand renfort de dette. Enfin, l'action publique, objectivement, est financée. En tout cas, elle trouvera des financements en 2023. Et puis, le troisième élément, c'est préparer l'avenir et protéger nos comptes. Bip ! Là, c'est la Croix-Rouge. Non, je suis désolé. On n'est pas en train de préparer l'avenir et de protéger nos comptes. Alors, on peut considérer que France 2030 est un plan de préparation d'avenir. Mais dans ce budget-là, c'est difficile quand même de le voir comme ça. On ne va pas dire que les marchés sanctionnent d'ores et déjà le budget, mais enfin, on a bien vu que le 10 ans français était passé de 2,5 à 2,7. D'ailleurs, je précise que dans le budget 2023, le 10 ans, il a été calibré à 2,5. Donc déjà, hier, il était à 2,7%. Bon, 20 points de base dans la journée. Voilà. Il n'y a peut-être pas que la Grande-Bretagne et l'Italie qu'il faut surveiller, mais je ne considère pas que c'est de l'euro près et que c'est du quoi qu'il en coûte qui est terminé.
Et donc, aucune indulgence vis-à-vis de la copie présentée hier.
Et pourtant si, pourtant j'aurais des éléments d'indulgence, parce que un gouvernement est obligé de chiffrer tous les postes pour l'ensemble de l'année qui vient quand il présente un budget. Il ne peut pas donner des fourchettes comme l'OCDE ou l'INSEE. Il doit donner des chiffres précis. L'exercice dans le monde que nous vivons aujourd'hui est totalement impossible. Chiffrer l'ensemble des différents éléments qui vous attendent sur 12 mois avec ce que nous vivons aujourd'hui, faut reconnaître que l'exercice est à la limite de l'impossible et qu'il faut rendre crédit au gouvernement d'essayer de présenter quelque chose qui n'est pas complètement fantoche. Le 1% de croissance, on n'y sera peut-être pas, mais bon, voilà, l'exercice, en tout cas, a été mené parce qu'il n'a pas le choix. Le deuxième élément, c'est que j'entends ceux qui disent qu'il faut laisser la vérité des prix s'exprimer. Oui, je suis d'accord. Mais quand, d'un jour à l'autre, la vérité des prix, ça peut être de passer de 1 à x4, x5, je me mets à la place de l'exécutif, oui, effectivement, j'interviens pour apaiser un peu la vérité des prix, parce que c'est une vérité des prix qui, socialement, devient littéralement insupportable. Après, je pense que sur les éléments de langage, il ne faut pas dire la fin du quoi qu'il en coûte. Il faut l'appeler autrement, mais voilà, parce que ça continue. Et puis le troisième élément, c'est que face au choc de guerre et au choc d'énergie, l'idée quand même d'intervenir avec l'arme budgétaire pour éviter l'envolée totale de l'inflation et éventuellement essayer de freiner un risque de récession, c'est peut-être pas forcément le plus mauvais des calculs, encore une fois, dans la situation que nous vivons. Parce qu'on se rend bien compte que la France a dépensé beaucoup. Enfin, quand même, elle a un choc inflationniste qui est nettement inférieur à celui de la zone euro. Ce qui nous préserve du fameux effet de second tour qui, sinon, pourrait s'accélérer. Quand vous êtes à 10, 11 d'inflation, vous ne pouvez plus tenir sur les négos salariales. Quand vous êtes à 5, 8, 6, vous avez quand même la possibilité d'aller un peu moins fort. Et puis, d'une certaine manière, si l'inflation est un peu contrainte par les politiques budgétaires, c'est une petite soupape pour la Banque Centrale Européenne pour éviter peut-être de durcir trop et trop longtemps sa politique monétaire.
Nicolas
Dose. Donc vous voyez qu'un peu d'indulgence quand même.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien reste en hausse pour 0,57%, 5802 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Philippe Crevel pour le Cercle de l'Épargne. Bonjour Philippe.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Votre épargne n'intéresse pas que vos banquiers et vos assureurs. Elle intéresse aussi les voleurs et les fraudeurs, faux sites, propositions de faux livrets avec des rendements alléchants, hameçonnage, usurpation d'identité. Les techniques sont multiples et la fraude tend à se développer. Philippe, quelles sont les techniques les plus fréquente.
Ben, les bonnes vieilles techniques que l'on connaît depuis des années sur Internet restent toujours valables. Ce sont les faux mails qui ressemblent étrangement à des mails officiels de la banque, de l'assurance, où on va vous dire vous avez une possibilité d'accéder à un placement intéressant ou simplement on a besoin de vos coordonnées bancaires et de ce fait veuillez nous les communiquer gentiment. C'est également le démarchage téléphonique, tout bêtement, du style, eh ben on a une offre à vous faire, on a une application, un site internet, veuillez vous y rendre, ou même mieux, donnez-nous vos coordonnées bancaires et on va se charger de tout. Hein, et donc, ça, ce sont des techniques qui ont cours depuis des années. Et puis, il y a des applications, des sites internet qui sont faits rien que pour la fraude. Donc avec des publicités qu'on peut retrouver sur ces applications habituelles, Facebook ou sur Google, qui vont vous dire il y a un super livret à 5-6%. Vous pouvez faire fortune grâce au diamant.
Mais maintenant, on se prend même plus à rêver avec des 10 et quelques pourcents. Il suffit de proposer 5 et quelques pourcents. 5-6%.
Et évidemment, on vous oriente vers des sites avec derrière des possibilités de pyramide de Ponzi. Ça veut dire que vous mettez de l'argent. Et puis vous voyez sur votre résultat plus 5, plus 6, plus 7%, on vous rappelle ou on vous envoie un mail, remettez de l'argent. Vous avez déjà gagné pas mal, vous allez gagner encore davantage. Et donc évidemment, certains entrent dans ce cycle infernal, remettent de l'argent et puis évidemment, à un moment donné, le site est fermé, il n'y a plus d'argent, ou les bouteilles de vin que vous avez achetées, elles n'existent pas, ou les diamants, ils ne sont pas évidemment dans un coffre, ainsi de suite. Et malheureusement, il y a des milliers de personnes qui se font avoir chaque année. Hein, donc la CPR, l'autorité de contrôle des banques et des assureurs, et l'AMF indiquent qu'on est sur des dizaines de millions d'euros possibles de fraude liée, on va dire, à ce nouveau monde en ligne.
Et tous les moyens sont bons, hein, et ça, dès le plus jeune âge.
Alors, les voyous, ils usent toutes les possibilités. L'imagination, la matière n'a pas de limite. Et donc, ils vont utiliser les réseaux comme YouTube, comme Facebook, évidemment, les réseaux également de jeux vidéo, où il y a des messageries, pour pouvoir capter les jeunes. Les influenceurs sont aujourd'hui, évidemment, de possibles potentiels escrocs, directement ou indirectement. Ils peuvent être eux-mêmes manipulés par derrière, par des sociétés bidons, qui vont leur dire, vendez tel ou tel produit d'épargne, et puis vous serez peut-être rémunérés, ou pas, et puis finalement derrière c'est donc une escroquerie. Et donc aujourd'hui les jeunes sont des cibles évidemment intéressantes pour tous les escrocs potentiels, surtout qu'il y a l'accès à la carte de crédit des parents, et donc ça peut être un moyen, évidemment, ni vu ni connu, de prélever des sommes non négligeables.
Quels sont les types de produits qui peuvent faire l'objet de fraudes ?
Tous. Ça peut aller avec des actions, des fausses actions. Ça peut aller avec les livrets. On en a parlé, des super livrets, 5, 6, 7% sur des sites qui vont se trouver dans des pays exotiques ou parfois même pas. Hein. Ça peut être Israël. Donc, on se méfie pas forcément d'Israël en tant que tel. Ça peut être, évidemment, les produits alternatifs. J'en ai parlé, les diamants, ça peut être les bouteilles de vin. Et puis, évidemment,
les papiers,
donc les parchemins.
On se souvient de l'affaire Aristophile.
Voilà, où là, c'était une des personnalités qui avaient pignon sur rue et qui se sont fait plutôt, qui se sont transformées en escrocs avec une pyramide de Ponzi. Et il y a également tout le domaine des crypto-monnaies et des NFT où là, aujourd'hui, il y a un véritable développement essor d'escroquerie. C'est simple, on crée une crypto-monnaie, on demande à quelques copains d'acheter la crypto-monnaie, on fait monter le cours à toute vitesse, comme en plus au début, il y en a très très peu, donc ça va vite. On dit donc à quelques internautes naïfs, vous voyez, ça a pris 50, 60, 70%, il faut mettre de l'argent tout de suite. Vous mettez de l'argent, vous avez vu, ça fait 100%, remettez de l'argent, et évidemment, la crypto-monnaie disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Et pour les NFT, et là, les NFT, c'est souvent les jeunes qui se font avoir selon le même principe.
Comment est-ce qu'on peut se préserver de ces agissements, surtout quand ils sont modernes comme ça ?
Alors, il faut évidemment ne pas succomber à l'appât du gain. Se dire que quand on vous offre 5, 6, 7%, voire plus, il y a forcément un petit peu en tourloupe. Il faut évidemment regarder l'origine des sites ou la nature des conseils qui sont donnés. Donc là-dessus, il y a des possibilités de vérifier avec l'AMF, avec la CPR. L'AMF a mis donc à peu près 267 sites en liste noire. C'est la liste en compte plusieurs milliers de sites qu'il faut pas utiliser. Donc là-dessus, il y a des possibilités d'aller vérifier l'authenticité. Il faut évidemment faire attention à tout ce qui est démarchage par mail, par téléphone, ne jamais communiquer directement ses coordonnées bancaires. Et puis si on a le moindre doute, s'abstenir.
Si on n'a pas été prudent, comment on fait si on est victime d'une arnaque ?
Alors, ça peut être très compliqué. Parce que si c'est un site qui se trouve dans un pays étranger, en dehors de l'Union européenne, pour retrouver son argent, c'est très, très complexe. Quand c'est dans l'Union européenne, il y a encore des protections et on peut essayer de retrouver. Surtout si c'est un site qui a eu la chance d'être agréé par l'AMF. Dans ces cas-là, il y a des possibilités via l'AMF, via la CPR, d'engager des démarches. Dans tous les cas, il faut demander à sa banque, évidemment, d'arrêter les transferts. Puis, il y a la possibilité, donc, de porter plainte. Moins de 10 000 euros, on peut utiliser le système en ligne de pré-plainte. Au-delà de 10 000 euros, il faut aller à son commissariat ou à la gendarmerie. D'autre part, pour ceux qui ne savent pas quelle procédure utiliser, il y a aujourd'hui une ligne de téléphone dédiée, un info-escroquerie, qui permet justement d'avoir un contact et d'avoir donc de connaître les démarches qu'il faut suivre. Et par ailleurs, là-dessus, le gouvernement, avec l'AMF et la CPR, a établi un guide de tout ce qui est arnaque en ligne, et donc on peut le consulter sur Internet.
Philippe Crevel et le Cercle de l'Épargne. Merci Philippe d'être passé ce matin. Le CAC 40 lui continue à grimper, mais il limite un petit peu sa reprise. On remenace entre guillemets les 5800 points. Il ne nous reste plus que 2,7 points pour rester au-dessus de ce seuil. Le CAC progresse de 0,58%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine.
Bonjour Cédric.
Pour Alter Egal, alors sur quoi doit-on miser ou doit-on investir pour bien terminer l'année ? Après tout, c'est vrai qu'on a évité l'été sanglant, donc a priori c'est plutôt joyeux. Les actions sont effectivement plutôt en berne, les obligations ont des performances négatives, l'immobilier, on s'interroge sur la valo avec la perte de capacité d'emprunt des épargnants. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors c'est vrai que vu le panorama tout de suite, on se dit que c'est pas joyeux. On peut aussi se dire que l'avenir va être un peu plus
oui, d'accord.
Mieux quand même.
Ouais, vu comme ça.
Même moins 15, moins 25 un peu partout, quelles que soient les classes d'actifs. Avant de savoir ce qu'on veut faire, je pense que vraiment ce qu'il faut regarder, c'est notre horizon d'investissement. Alors je me répète parce que c'est toujours un peu cette même pédagogie. Et si vous voulez bien, Cédric, on va regarder trois horizons différents pour que chacun puisse comprendre sur quelle échéance on prend le plus ou moins de risques.
Ça veut dire que tout se joue en fait finalement là-dessus, sur son horizon d'investissement.
Alors pas que, parce que il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont 15 ans devant eux, mais qui au bout d'un an, si leur capital varie, ils vont vous appeler trois fois par jour. Donc à la hausse, en général, ils appellent pas beaucoup, c'est quand ça varie à la baisse. Hein. Mais donc normalement, c'est quand même plutôt l'horizon d'investissement qui va guider le professionnel en fonction du souhait de l'investisseur pour aller chercher des niveaux de rendement qui sont plus élevés.
Bon, donc on commence par quoi ? Par une longue période, par 15 ans ?
Ouais, on commence par le plus long possible. Non, mais 15 ans. 15 ans, c'est une période qui est quand même très très longue. En temps normal, même si le marché était très souriant à tous égards, ainsi de suite, on serait assez confiant sur une période où on a déjà commencé à bien baisser depuis un an glissant. Ça ouvre des perspectives. Attention quand même, parce qu'on n'est sans doute pas au plus bas. Si on était au plus bas, si on était vraiment à la fin du monde, je pense qu'on aurait plus de perspectives qu'aujourd'hui. Mais si on regarde en imaginant que ça puisse baisser encore dans les mois à venir, en disant qu'on a 15 ans devant soi, clairement, on ne va pas exclure les actions du portefeuille. Clairement, on va s'intéresser à des fonds actions ou à des actions. Dans quelle mesure ? Bah, d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est quand même le plus grand marché d'échange. Donc souvent, on dit que les flux font la performance. Pour les États-Unis, c'est assez vrai. On a des marchés qui ont beaucoup baissé, que ce soit le Nasdaq, le S&P 500 et ainsi de suite. Moi, j'aurais tendance, c'est pas ma tendance naturelle, mais j'aurais tendance là, dans ce marché spécifique, pour les US, à proposer aux épargnants d'aller plutôt sur des ETF, c'est-à-dire en fait des trackers qui vont répliquer l'indice.
Pour limiter les frais.
Alors pas que, hein.
Non, pour la simplicité aussi.
Bah parce qu'il est très dur de battre les indices US à la hausse. Il est très très compliqué. Les gérants y arrivent rarement. Et comme là, on va chercher à remonter, on va plutôt aller prendre l'ETF dans ces cas-là.
D'accord.
Soit un côté blend S&P 500, soit si vraiment on est à fond les ballons, on peut très bien aller sur un Nasdaq, c'est-à-dire les valeurs de croissance, dont on sait que pour lesquelles on sait que l'inflation n'est pas le meilleur facteur de valorisation.
Bien sûr.
Et puis, on a... Alors, attention aussi, parce que nous, on achète en euros, hein, nous, Français, Européens, zone euro, et attention, parce que le dollar est assez...
Il y aura l'impact de devise, oui.
Pour l'instant, on va acheter pas beaucoup de dollars. Demain, ça peut être plus à notre faveur, mais donc faites attention quand même. Si le dollar continue à monter contre euro, ça va forcément se ressentir sur votre portefeuille valorisé en euros. Ce petit point étant mis de côté, sur 15 ans, je pense qu'on a un peu de marge.
Oui, c'est ça.
Actions européennes ? Actions européennes, forcément. Alors, on est plus inquiet à court terme sur les actions européennes et sur l'Europe en général, hein, pour toutes les problématiques que vous évoquez régulièrement, notamment la crise énergétique en Europe. Néanmoins, les actions européennes, elles sont assez faibles aujourd'hui, encore plus hein, depuis l'ouverture de ce matin. Pourquoi pas aller sur des fonds dits value, c'est-à-dire des valeurs un peu décotées. Pourquoi pas également continuer à s'intéresser aux actions bancaires, même si la fin d'année peut être compliquée. Sur 15 ans, ça vaut le coup de s'y intéresser. Puis si on veut pas un fonds full action, on peut aussi regarder des fonds 0-100 avec une dimension action, comme des fonds comme Ginger Active 360, dont je fais souvent la pub ici.
Mais donc, de la gestion plutôt active, là, sur la branche européenne, on va dire.
Sur la branche européenne. Alors d'abord, il y a moins d'ETF qui existent sur l'Europe. Et le problématique de battre les indices existe moins sur l'Europe que sur les États-Unis.
Ouais, allons-y.
Continuons. Comment mettre de côté la thématique ESG fin 2022? Bah, on peut pas, hein. Donc, on va forcément.
De toute façon, il y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés. Donc,
alors, on va voir
dans faut vraiment faire exprès pour s'en extraire, non?
Alors d'abord, il faut le faire exprès, puis ensuite, il y en a de moins en moins qui sont référencés, donc de moins en moins qui sont disponibles dans les enveloppes pour les épargnants. Et après, sur la thématique ESG, au-delà du côté marketing, au-delà du côté, d'époque, il y a une réelle politique d'investissement. C'est-à-dire que l'énergie renouvelable, c'est une politique d'investissement dans laquelle il y aura de plus en plus d'argent. Les flux font la performance, autant y aller. La rénovation des bâtiments, on en parle en permanence. Là aussi, c'est encore une dimension ESG, autant y aller. Et pareil, même dimension, si vous ne souhaitez pas forcément être sur des actions pures, il existe désormais des fonds diversifiés, ESG, intéressants. On en touche au timbre, on offre ailleurs.
Si on raccourcit un petit peu notre horizon d'investissement, disons 5 ans.
Alors 5 ans, c'est déjà une belle réduction d'investissement. Dans la problématique actuelle, en octobre 2022, en septembre 2022, je vais exclure les actions pour un investissement à cette date-là.
D'accord.
Peut-être qu'on y viendra en cours des 5 ans, mais pour l'instant, je les exclurai parce qu'on n'est pas à l'abri que ça baisse plutôt dans 6 mois, qu'on soit à moins 40 par rapport au 1er janvier 2022. Et dans ces conditions-là, ça va être compliqué de se rattraper sur 2-3 ans. Donc on va se concentrer sur quoi? Alors pour le coup, c'est très à la mode, hein, on va se concentrer sur des obligataires datés, hein, ce qu'on appelle les buy and hold. Pourquoi? Parce que on va vous trouver des rendements du portefeuille. Alors attention, hein, le portefeuille en valeur a baissé depuis le début de l'année, mais du coup, on trouve un rendement actuariel qui va être à 6-7%, donc ça peut être extrêmement séduisant. C'est des fonds qui vont être datés, donc ils vont s'arrêter, par exemple, en 2026 ou en 2028.
Donc du portage, quoi.
On est sur du portage pur. Attention néanmoins, parce qu'on est souvent sur du high yield, au rendement. Donc il y a un risque de défaut qui existe. Hein. On l'a masqué depuis quelques années, mais enfin, il existe. Et puis la fin de la liquidité devrait peut-être l'accélérer. Et surtout, faites attention, parce que les coupons ne sont pas délivrés, comme pour nos grands-parents, au jour le jour, au mois le mois, mais ils sont délivrés en fin de produit, donc on ne voit pas le rendement sur le produit. Donc ça peut être difficile à lire, donc autant faire attention également à ça. Si on veut du rendement délivré pendant ces 5 années, alors on peut s'intéresser, c'est mon dada, à des produits structurés. Et aujourd'hui, on trouve vraiment des produits en single stock, c'est-à-dire avec uniquement une action, par exemple, en sous-jacent, sur des valeurs extrêmement connues, type Kering, avec des moins 50% de protection du coupon, moins 50% du capital au terme de 5 ans, avec des distributions semestrielles qui peuvent être de l'ordre de 6, 7, 8% selon le moins de frais que prend votre intermédiaire.
Bon, allez, je raccourcis encore un peu plus. Ouais. Si on est court-termiste.
Moins de 3 ans ? Je veux dire, sur moins de 3 ans, d'une façon générale, on peut faire pas grand-chose parce qu'il y a très peu de fonds éligibles, très peu de disponibilité, c'est très très court.
Oui.
Alors, je vais pas être hyper original, on va être sur un mix, si on est sur un contrat d'assurance, et dans ce cas, je le conseille, hein, on va être sur un mix fonds euro, très important, 60%, ce qui est généralement le maximum qu'autorisent les compagnies. Alors, sans doute que les fonds euros vont se booster un petit peu, donc on atteindra peut-être 2 ou plus.
On va espérer.
On va espérer, de toute façon, ils ne peuvent pas aller tellement plus bas. Et puis, on va aller un peu sur du monétaire USD. Si certains contrats d'assurance le proposent, il faut y aller, parce que le portage de la dette US, aujourd'hui, c'est quand même d'abord assez sûr, et ensuite, ça rémunère pas trop mal son investisseur. Et puis, après, on va mixer avec des fonds patrimoniaux à très très faible volatilité, des Lazard Patrimoine, des Leva Absolute Return, etc., etc.
Et si, pour finir, on est juste opportuniste ?
Si je suis opportuniste et que je me fiche de perdre cet argent, objectivement, je vais m'intéresser à nouveau monétaire USD, parce que tout le monde problème de change, hein, donc il y a quand même un délire, à l'immobilier à crédit, parce qu'on a quand même des taux à 2%, donc ce serait ballot de passer à côté si demain on est à 4% de taux de crédit. Et carrément à ce qui est mal classé, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, parce que je pense qu'on peut pas trop mal négocier son prix. Et donc, notamment le prix des travaux, et les acheter à des gens qui n'ont pas les moyens de faire des travaux et de baisser les prix par rapport à cela. Et puis, pourquoi pas les fonds pricing power, dont on nous a rabattu les oreilles depuis des années, et qui depuis le début de l'année ne sont pas très pricing et ne sont pas très power non plus. Ils ont été bien bien décotés. On va voir si demain, ils peuvent réellement garder leur marge dans une période d'inflation importante.
Géraldine Métifeux et Alter Egal qui nous accompagnaient ce matin. Merci Géraldine.
Merci Cédric.
Bon retour. Le marché qui, pour le moment, limite un petit peu sa hausse. On ne gagne plus que 0,44% et on est repassé sous les 5795 points. On va aller faire tout de suite un détour sur le marché avant d'accueillir nos spécialistes pour Regards Croisés.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.